Radio. Grand-Témoin.
Il a été ministre des Affaires foncières, de l'Énergie, de la Réforme institutionnelle et bâtonnier national. Maître Tarcisse Matediwamba Kamba Mountou est aujourd'hui l'invité de Grand Témoin. Maître Matediwamba, soyez le bienvenu.
Merci.
Le 25 novembre 1943, vous voyez le jour à Swakilembe,
oui.
Dans la collectivité Pelende-Kobo,
oui.
Territoire de Kiengé, district du Kwango, province du Bandundu. Que signifie votre nom?
Mon nom, il est composé, c'est-à-dire, dans pas mal de langues, ça signifie pierre. Hein? Bon, c'est le nom d'un fleuve, mais ça signifie la paix. Je crois que Wamb, c'est le fleuve qui a sa source en Angola, qui coule à travers tout le Kwango pour se jeter dans le fleuve Kwango. Et il a, je crois, pour caractéristique d'être un fleuve tranquille, où il y a une certaine paix.
Force tranquille.
Force tranquille. Si vous faites, n'est-ce pas, le rapprochement entre la pierre, vous cognez contre une pierre, ben, il faut le faire. Si vous avez mal, on vous soigne avec le Wamb, n'est-ce pas, qui est aussi un remède, si vous voulez.
Quel souvenir vous gardez de Swakilembe?
Swakilembe, c'est l'abréviation en lunde, c'est Swakilembe. La congolisation donne Swakilembe, sinon c'est Swakilembe. Swakilembe, c'est le village où... Je ne suis pas né en fait à Swakilembe, je suis né plus au nord, mais c'est là que j'ai commencé ma prime jeunesse, d'abord accompagnant à la forêt mon père dans la chasse Kuzombe et d'autres trucs là, bon, et des jeux entre garçons et filles, et alors après je suis allé à l'école, donc c'est à partir de Swakilembe que j'ai le souvenir le plus reculé, si vous voulez.
Quel genre d'enfant étiez-vous?
On me disait turbulent, on me disait semblable aux filles. Une chose qui me gênait à l'époque, c'est quand on demandait parfois à ma mère, mais maman, votre enfant, si c'est un garçon ou une fille.
Et pourquoi?
Mais parce que j'avais la beauté d'une fille.
Alors, en 98, vous publiez Espace Lunda et les Pelende-Kobo. Quel rapport y a-t-il entre les deux peuples?
Ah ben voilà, simplement, les Pelende-Kobo, c'est dans l'ensemble Yaka, mais le pouvoir de Pelende, c'est un pouvoir Lunda, n'est-ce pas? Parce que Pelende, c'est un seigneur Lunda qui est venu là où il se trouve dans le territoire de Kenge, dans le cadre de l'expansion de Lunda. Pelende, c'est la congolisation du nom, mais en Lunda, c'est un palende, n'est-ce pas? Qui signifie la variole, cette maladie qui a décimé l'Afrique, qui a décimé le Congo, si vous voulez, avant la lettre, parce qu'on n'était pas encore Congo lorsque la maladie a sévi en Afrique, eh bien, c'était, si vous voulez, le sida de l'époque, un palende, c'est, bon, un nom de guerre qu'un seigneur Lunda a pris, comme je dirais, tous les Lunda, ils prennent le nom de guerre, n'est-ce pas? Et c'est sous ce nom-là qu'ils règnent et qu'ils sont connus. Donc, palende, c'est le nom de règne d'un chef de chefferie.
Et quand vous parlez de Lunda, vous faites allusion à l'empire Lunda qui va du nord Katanga en passant par le Kasaï jusque dans le Bandundu.
Bien sûr, et en Angola, naturellement, où les Lunda occupent trois provinces entières. Hein. Et je crois que vous le savez, le mot même Angola, n'est-ce pas? C'est un seigneur Lunda qui a donné ce nom-là à tout le pays. Un certain Ngola Tiraj, n'est-ce pas? Qui se retrouve là-bas. Il avait quitté le pays d'origine et il se trouve à Benguela. Et lorsqu'il sera rencontré par les exportateurs portugais qui demanderont à la population, mais vous, ici, qui êtes-vous? Et les interlocuteurs de lui dire, mais nous sommes Angol, nous sommes les enfants d'Angol, et le Portugais, l'exportateur, a noté Angol, ce qui va donner le nom à tout le pays, n'est-ce pas, Angol, c'est un seigneur lourd, Angol à Tiraz.
En 97, on note encore parmi vos publications, proverbe Pelende.
Oui.
Quel est le proverbe qui vous a marqué le plus et pourquoi? Citez-le nous.
Comment il y en a plein, mais je dois dire que chacun des proverbes m'a marqué autant, parce que vous savez, un père ici, le quoi le père Vanout qui a publié sur les proverbes, eh bien, il les appelle des comprimés de sagesse. sagesse, chaque proverbe qui est un comprimé de sagesse parce que il contient un conseil, il contient une mise en garde, il contient tout ce que vous voulez. Et alors, vous citez un proverbe déterminé, j'ai peur parce que je n'aimerais pas
moisser certaines susceptibilités.
Moisser les autres proverbes.
Alors, essayez de saluer en Lunda les auditeurs qui vous comprendront.
Là, vous intérêt, j'ai un message. Ok.
Et qu'est-ce que vous avez dit là?
Qu'est-ce que j'ai dit? Mais bonjour et portez-vous bien, j'ai un
Radio Cassine, grand témoin.
Ancien ministre des Affaires foncières, de l'énergie, de la réforme institutionnelle et bâtonnier national, Maître Tarsis Matadiouamba Kambamutu est celui que grand témoin reçoit aujourd'hui. En 1957, vous décrochez votre certificat primaire à Mukira,
oui,
à Kengi. En 1964, vous obtenez votre diplôme homologué des humanités gréco-latines au petit séminaire de l'Infou au Bas-Congo.
Oui.
Pourquoi vous quittez le séminaire?
En fait, j'avais quitté le séminaire bien avant. C'est-à-dire, dès la première année des humanités gréco-latines, j'ai dit au père recteur que...
Vous aviez perdu la foi.
Je n'ai pas perdu la foi, c'est pas ça, absolument pas ça. Mais bon, que ça n'était pas là. Et le père de me dit, Tarsis, prêtre ou pas prêtre, je te garde au séminaire parce que ta classe est faible et le deuxième de la classe vient d'être autorisé à aller au collège de Mbazamboma. Toi, le premier de la classe, tu demandes à partir aussi. Je ne peux pas couper la classe de sa tête. Tu restes au séminaire, tu respectes les règlements et tout, et plus tard on verra. Voilà pourquoi j'ai continué au petit séminaire.
En 1968, vous devenez diplômé de baccalauréat en philosophie et lettres et de licence en droit de l'Université Louvagnon à Kinshasa. Et pendant une année après vos études, vous travaillez comme conseiller juridique à la direction du personnel de l'Office des transports congolais Otraco, l'actuel Onatra, à Kinshasa, dans le cadre du service civique obligatoire. Oui. Quelle perception avez-vous de ces services?
Oh, les services civiques obligatoires étaient imposés par le gouvernement à l'époque, pendant les premières années de l'indépendance, en raison de l'insuffisance des cadres universitaires. Le gouvernement avait besoin de juristes pour la magistrature et les entreprises publiques. Le gouvernement avait besoin de médecins. Et alors, il avait pris une décision obligeant les diplômés en droit, les diplômés en médecine, de d'abord travailler à l'État pendant un certain temps avant d'être libre. Et moi, je suis allé faire mon service civique à l'ONATRA à l'époque, parce que pour pouvoir entrer au barreau, il fallait que je prouve avoir fait mon service civique. Voilà pourquoi je suis allé à l'ONATRA et au bout de 24 mois obligatoires, j'ai eu mon attestation de fin de service civique et de la sorte, mon dossier pour entrer au barreau était complet et je suis entré au barreau depuis 71.
Le 16 février 71 exactement, vous prêtez serment comme avocat au barreau de Kinshasa.
Oui.
Quelle est la situation des avocats au barreau de cette ville? Nous avons posé la question à quelques avocats qui nous donnent leur point de vue. On les écoute.
Mon nom est Monsieur Chipeta Unga, je suis avocat. Les problèmes que nous rencontrons en tant qu'avocats sont nombreux. D'abord, entre nous-mêmes les avocats, il faut dire que l'entente est plus formelle qu'autre chose, dans le sens où il y a des problèmes qui se posent entre avocats et qui ne trouvent pas de solution et qui doivent être transportés au niveau de notre conseil de l'ordre, alors que, en tant que confrères, ce sont des problèmes qui doivent être résolus entre nous sans que nous obligé d'emmener ça devant notre conseil de l'ordre. Un exemple, il y a des avocats qui n'acceptent pas la défaite dans un procès et qui se lancent carrément dans ce que je pourrais appeler des manœuvres pour essayer de bloquer la partie adverse qui veut exécuter le jugement ou l'arrêt dont elle est bénéficiaire.
Maître Moukane, je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. En fait, les difficultés sont multiples de plusieurs ordres et de plusieurs défis. D'abord, il y a le niveau même de la justice dans notre pays. Il y a le système judiciaire, les autres opérateurs judiciaires qui ne nous favorisent pas la tâche. Et aujourd'hui, il y a le problème de moralité dans lequel nous évoluons. Notre environnement, notre justice ne donne plus de garanties morales.
Maître Matadi Wamba, il faut rappeler qu'en mai 98, vous avez été élu bâtonnier national. Comment vous réagissez au propos de vos confrères?
Les confrères font des appréciations correctes. Titre de comparaison, vous remarquerez que lorsque moi j'entre au barreau en 71, il n'y avait pas pour tout le pays plus de 50 avocats, n'est-ce pas? Je ne pense pas. Et la caractéristique du barreau à l'époque, c'était que la majorité des avocats, c'était des expatriés, en l'occurrence des Belges et quelques Français. Les Congolais, c'était à compter sur les doigts de la main, bon, j'exagère un peu. En tout cas, on était très peu nombreux. Et la justice, du côté des magistrats, fonctionnait correctement, avec en tout cas beaucoup, beaucoup moins de tares, beaucoup moins d'inconvénients, beaucoup moins de corruption qu'aujourd'hui. Alors, vous voyez donc, quand les confrères font les appréciations aujourd'hui, des jeunes avocats, là, et ben, tout le pays aujourd'hui, c'est plus de 4000 avocats. Ça pose déjà un petit problème, n'est-ce pas? Et dans un pays où le marché d'emploi, où l'économique est en difficulté, les avocats sont des intermédiaires. Si l'économie du pays, n'est-ce pas, est prospère, les avocats sont aussi prospères parce qu'ils offrent des services qui peuvent être rémunérés correctement. Dans le contexte d'aujourd'hui, les services des avocats doivent être rémunérés par ceux qui en ont besoin, mais qui sont les mains vides, ou presque. Alors vous voyez les difficultés devant lesquelles on peut se trouver, comme le disent mes confrères. Donc ils font une analyse exacte. Eh bien, le barreau aujourd'hui est tributaire de l'état général du pays.
L'un d'eux a fait allusion aux relations entre avocats. Vous est-il déjà arrivé vous-même d'être en conflit avec un autre confrère puisqu'il a perdu ou vous avez perdu un procès?
Mais naturellement, c'est régulièrement qu'on est en conflit, si vous voulez, ne fût-ce que potentiellement, parce que bon, le problème n'est pas de perdre un procès, le problème c'est de le perdre mal. Qu'est-ce que je veux dire par là? Perdre le procès tout en sachant que c'est parce qu'il y a eu des interventions autres que les arguments de droit. Et ça, ça fait souffrir autant que le client que l'avocat que je suis. Et si je sais que de l'autre côté, c'est un avocat qui a fait une démarche non autorisée, ça me peine beaucoup plus. C'est dans ce sens-là. Mais sinon, bon, nous, avocats, nous ne devons pas personnaliser les affaires. Hein. C'est des affaires des clients. Il nous est demandé d'apporter tout le soin voulu, mais sans arriver à personnaliser un conflit.
À deux reprises, vous avez été élu membre du Conseil de l'Ordre des Avocats de Kinshasa et président de la commission d'arbitrage du barreau. Comment est organisée votre profession?
Le barreau est organisé par une loi qui font de tous les avocats d'un barreau à une cour d'appel, parce qu'il y a un barreau à chaque cour d'appel et un barreau à la Cour suprême de justice. Ces barreaux-là sont organisés de cette manière. Tous les avocats sont constitués à l'Assemblée générale, l'organe suprême. En dessous de l'Assemblée générale, vous avez le Conseil de l'Ordre. C'est quelques avocats qui sont élus par l'Assemblée générale pour être le gouvernement et le Parlement du barreau. Et le tribunal du barreau aussi, parce que le Conseil de l'Ordre est en même temps le gouvernement, le Parlement et, je ne dirais pas le Parlement, mais surtout le gouvernement et le tribunal du barreau. Et parallèlement au Conseil de l'Ordre, vous avez un bâtonnier, qui est un organe à part. Le bâtonnier, il est celui qui préside le Conseil de l'Ordre, celui qui préside l'Assemblée Générale, mais sans se confondre avec ses organes, parce que le bâtonnier a ses attributions propres. Et alors, les membres du Conseil de l'Ordre, bon, sont autant de députés ou de juges qui composent le Conseil de l'Ordre pour prendre des décisions collégialement. Tandis que le bâtonnier, lui, il peut prendre des décisions de sa compétence telle que la loi l'a voulu.
En 1977, vous êtes élu député de la circonscription électorale du Kwango.
Oui.
Est-ce pour vos débuts en politique, puisqu'aux législatives de 82 et 87, vous serez élu député de Kinshasa puis du Kwango?
Oui, c'est en 77 que j'ai eu mon premier mandat public, mandat électif comme député, à l'époque ça s'appelait commissaire du peuple, pour la circonscription de Coirot, qui était érigée à l'époque en circonscription électorale unique. Donc c'est au Coirot que j'ai obtenu mon poste de parlementaire. Et alors j'ai eu une tribune plus large que les judiciaires, et à partir de là tout s'est enchaîné. Bon, voilà.
Et en 87, pourquoi les services de sécurité vous ont-ils écarté?
Oh, et pourquoi on m'a écarté aujourd'hui? Aujourd'hui aussi j'ai été écarté. Aujourd'hui, c'est-à-dire aux élections de 2006, c'est des choses qui arrivent, c'est par méchanceté. Si vous n'avez pas la couleur, c'est un problème de couleur. Là, c'était le parti unique. On était en train de faire le dépouillement ou la compilation au centre national qui alors siégeait à la fois lorsque, aux nouvelles de midi, le ministre de l'Intérieur de l'époque a publié les résultats. J'étais pas sur la liste. Et par après, on m'a dit, ben voilà, on vous a éliminé parce que aujourd'hui, c'est des choses qui arrivent aussi. J'ai été élu dans la circonscription électorale de cette fois-ci, quand la CI clôture les opérations cette nuit-là, le 17 septembre, j'ai regardé Internet, j'étais élu, et à la publication, on n'a plus lu mon nom, et bon, voilà.
Des institutions publiques et privées, responsables de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Maître Matadiwamba Kambamutu, je rappelle que vous êtes ancien ministre des Affaires foncières, ministre de l'Énergie, de la Réforme institutionnelle et bâtonnier national. Du 18 janvier 1980 au 7 mai 82, vous êtes nommé ministre des Affaires foncières et ensuite de l'Énergie sous les premiers ministres Bobo Liko, Ngun Zakalibonde et Singa Ujo. Comment vous y arrivez?
Je vous le disais tout à l'heure, c'est en fait la partie de la tribune du Parlement. La législature de 77, pendant la Deuxième République, a été été, j'allais dire encouragé, mais disons en tout cas obtenu en quelque sorte par les démocrates américains. C'est sous le président Carter qui avait conditionné l'aide au Zaïre, la coopération avec le Zaïre, à une démocratisation du pays. Et le président Mobutu a eu à organiser une élection qui était, à mon avis, libre à 80% certainement. Et alors, à l'issue de cette élection, la démocratisation voulait que le Parlement ait des attributions de contrôle du gouvernement. Et dans le cadre du contrôle du gouvernement, les députés interpellaient les ministres, faisaient des enquêtes parlementaires, et il se fait que j'ai été parmi les députés qui ont eu à interpeller les ministres. Et c'est au cours de ces interpellations que...
qu'on vous a remarqué.
Qu'on m'a remarqué, bon, et alors, voilà.
Alors, les affaires foncières sont aussi, vous le savez, un grand défi en RDC.
Voilà.
On parle aujourd'hui des terrains de l'État spolié. Comment mettre fin à ce genre de pratique, à votre avis, en tant qu'ancien ministre?
Ah là là, bon, voilà. Si les choses n'étaient pas ce qu'elles étaient à l'époque, c'est-à-dire une centralisation à outrance des pouvoirs, avec l'interdiction qu'on parle des ministres, eh bien, si les choses n'étaient pas cela, eh bien, la loi foncière que nous avons aujourd'hui dans le pays, elle serait certainement appelé la loi Matadiwamba. Parce que, figurez-vous, c'est sous moi que, en 80, il y a eu une grande modification de la loi foncière, et notamment qui a introduit, pour la première fois dans le pays, une action contre un certificat d'enregistrement. Parce que jusque-là, le certificat d'enregistrement était réputé inattaquable. Et c'est sous moi que la loi a été modifiée pour introduire, n'est-ce pas, une modalité permettant qu'on puisse attaquer le certificat d'enregistrement, ne serait-ce que pendant une petite période. Aujourd'hui, c'est 2 ans.
Mais aujourd'hui, comment mettre fin à la spoliation de tels terrains?
Eh bien, voilà, c'est par une action gouvernementale. Il faut qu'on tienne les hommes. Le ministre doit tenir les hommes. Quels hommes? Mais les fonctionnaires du ministère, les conservateurs des titres immobiliers, avec tout leur personnel, le personnel du cadastre et tout, pour qu'on ne distribue pas les terrains de manière anarchique. Les terrains sont du domaine public, les terrains appartiennent à l'État, pour me résumer, et c'est l'État qui doit gérer ça de façon judicieuse. Il faut empêcher les constructions anarchiques. Or, il se fait qu'aujourd'hui, les conservateurs et tout ça, et ils accordent des terrains à des endroits, comme on dit, non édificants, des endroits où vous ne pouvez pas construire. Et si vous donnez un contrat de location sur un tel terrain, mais vous êtes en train de détruire l'équilibre environnemental et l'équilibre écologique, et vous posez de véritables problèmes sans parler des conflits entre citoyens.
Que faut-il pour résoudre le problème de l'énergie en RDC? Nous avons posé la question à Badi Mbaye, ancien ministre de l'énergie sous Laurent Désiré Kabila. Il pense, quant à lui, qu'il faut confier ce secteur à des spécialistes. On écoute Badi Mbaye lors de son passage dans cette émission.
Moi, je crois qu'il faut, en plus d'avoir quelqu'un qui a dû réfléchir longtemps dans ce domaine, il faut une volonté politique, il faut une vision, et il faut en même temps l'aide extérieure. Il faut pouvoir choisir les partenaires extérieurs. Je vais vous donner un exemple. Prenons Inga. Inga, aujourd'hui, vous discutez avec les Chinois, puisque c'est de la mode. Vous savez que c'est les Chinois qui ont aujourd'hui les plus grands barrages, les barrages de trois gorges. C'est les plus grands du monde. Avant, il y avait le haut barrage de la soie. Nous avons dépassé les barrages de la soie. Maintenant, ceux qui viennent de le débattre, c'est les Chinois. C'est un Chinois qu'il faut confier. Par exemple, la réhabilitation d'Inga. Vous confiez à des gens, on ne sait pas très bien, des Portugais, des Canadiens, des entreprises, on ne sait pas où, ils n'ont pas l'expertise pour gérer ce genre de choses. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Pour tout ce secteur-là, il faut faire des choix judicieux. Par exemple, je vais vous donner un autre cas, toujours dans le domaine de l'énergie. Nous avons le gaz au Kivu. Qui traîne? Nous avons aujourd'hui Gazprom, la Russie. La Russie, c'est le plus fort en gaz. Il faut collaborer avec les gens qui connaissent. Moi, je comprends pas. On met des gens qui viennent, je ne sais pas, des Canadiens, des petites sociétés. Non. Ici, il faut une politique d'aide à l'extérieur très agressive. Il faut que les gens que l'exploité agressive, nous disons toujours souveraineté. Pourquoi on ne peut pas chercher ceux qui sont forts dans les domaines et nous les connaissons, connus dans le monde entier pour faire des choses très facilement?
Réaction, Maître Matadiwamba, ancien ministre de l'énergie aussi.
Oui, le ministre Badi Mbaye aborde un point du problème, un aspect du problème. Il met l'accent sur l'expertise à laquelle il faut recourir pour pouvoir
résoudre le problème de
résoudre le problème. maintenir les équipements et tout. Je crois que, pour ma part, le problème n'est pas du côté de l'expertise des gens. Nous avons des experts qui s'expatrient même du pays. Ce n'est pas tellement un problème d'experts, c'est un problème de responsabilité, un problème de gestion. Inga a été construit et bien construit. Le problème qui se pose, c'est un problème de maintien de l'équipement. Est-ce que pour désensabler, il faut aller chercher des Chinois, il faut aller chercher je ne sais pas qui. Le personnel est là pour désensabler l'aiguille. Puis ce fait que l'argent que l'on met, à ça l'argent n'arrive pas. Et alors le travail ne se faisant pas, il y a ensablement et destruction des équipements. L'argent que l'on met pour changer les pièces, parce qu'une pièce d'une machine a une durée de vie. Au bout de tel nombre d'heures, il faut la changer. Est-ce qu'il faut aller chercher des experts en Chine ou je ne sais pas, à la ligne pour faire ça? Non, il faut mettre les moyens. Les moyens vont ailleurs. Et c'est ce qui fait que Inga est malade.
Nous tendons lentement, mais sûrement, Maître Matéli Wamba, vers la fin de cette émission. De novembre 91 à février 92, vous êtes ministre de la réforme institutionnelle sous le premier ministre Jean-Gon Zakari Bond. Pourquoi vous démissionnez?
Oh, ben, écoutez, j'étais le chouchou du premier ministre Ngoz, que Dieu ait son âme, mais on ne s'est pas entendu sur un point. Lequel? La fermeture de la conférence nationale. J'ai été chargé par d'autres ministres, d'autres partis politiques, pour dire au premier ministre que s'il fermait la conférence nationale, les ministres allaient quitter le gouvernement. Je suis allé le lui dire, le premier ministre est passé outre, il a fermé la conférence nationale, et moi, qui avais accepté mon poste de réforme institutionnelle au sein de la conférence nationale, je considérais que je n'avais plus de boulot,
dans le gouvernement.
Et je lui ai remis ma démission.
En décembre 89, vous êtes avocat admis à la Cour suprême de justice. Vous le savez, au cours des élections de 2006, on en a parlé. La Cour suprême de justice a été l'objet de plusieurs contestations à un certain moment. Peut-on continuer à faire confiance à cette institution?
Sinon, on doit continuer à faire confiance, on doit espérer que les hommes vont s'améliorer parce que c'est un problème d'hommes. Si on perd confiance dans les institutions, alors on ouvre la voie à la rue.
À l'anarchie.
À l'anarchie, nous devons continuer à faire confiance. C'est que le président de la République, le gouvernement venait de faire dernièrement, bon, c'était une indication, on a remplacé les gens. Bon, il faut qu'on demande à ceux qui sont appelés après à faire mieux, à en tout cas, à s'abstenir des travers qui dénaturent, des travers qui discréditent la fonction de juge. Thank you.
Avant de mettre un terme à cette émission, un conseil à tous les jeunes qui aspirent au métier d'avocat.
Oh, c'est un apostolat. Qu'on y vienne nombreux, le pays a besoin de beaucoup d'avocats, de bons avocats, mais que ceux qui viennent au barreau se convainquent d'abord que c'est pas au barreau qu'on vient pour s'enrichir. Je ne veux pas dire que l'avocat doit être pauvre. Absolument pas. L'avocat doit vivre de son travail, mais il faut se dire, c'est le conseil que mon patron de stage nous donnait. L'avocat gère le patrimoine d'autrui, les biens d'autrui, et il se fait payer, mais si vous voulez devenir juste, allez faire le commerce. Faites les affaires.
Merci, Maître Matadi Wamba, d'être passé à Grand Témoin.
Merci.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que nous recevions Maître Tarsis Matadi Wamba Kambamutu, ancien ministre des Affaires foncières, de l'énergie, de la réforme institutionnelle et bâtonnier national. Merci à Paulin Mouinkiew qui était à la technique et à la réalisation, à la présentation Alain Hirung. Retrouvez cette émission sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. À la prochaine.